Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous avons le plaisir de retrouver notre historien géographe Jean Saraméa. Bonjour Jean.
Bonjour à mon cher public. Alors, ayant lu pas mal d'ouvrages sur le Briançonnais, j'ai noté les phases historiques depuis 10-15 000 ans qui jalonnent la formation de la population telle qu'elle existe à l'heure actuelle. Alors, il faut bien imaginer que lors de la dernière glaciation, ce qu'on appelle le Würm, il y a 15 000 ans, 20 000 ans, la région était totalement déserte et inhabitée. Il y avait une confluence de glaciers, le glacier de la Clarée, le glacier de la Guisane, justement à Briançon. Donc cet espace vide va être occupé par l'espèce humaine à l'occasion du recul de ces glaciers. Je rappelle que le glacier de la Durance arrivait presque à Sisteron lors de la dernière glaciation, un peu au nord de Sisteron. Quand on prend l'autoroute, ce sont les premières collines. C'est là que fondait le glacier de la Durance il y a 10 000 ans environ. Donc là, il y a eu d'abord une occupation saisonnière par des chasseurs-cueilleurs venus de l'ouest, mais surtout du sud, par la vallée de la Durance, et qui, l'été, venaient s'approvisionner en viande et cueillir ce que les premiers arbustes pouvaient donner d'intéressant. Ensuite, au néolithique, les premiers éleveurs vont occuper les pâturages un peu élevés, sans doute avec déjà un phénomène de transhumance entre la basse vallée de la Durance et la haute vallée de la Durance. Alors, les historiens, les archéologues pensent qu'il y a eu un mélange de populations ligures, qui étaient plutôt bruns et petits, avec des grands plutôt blonds venus de l'Est, c'est-à-dire des plaines de ce qui n'est pas encore l'Italie du Nord, bien sûr. Par contre, on a l'habitude en France de dire nos ancêtres les Gaulois, c'est-à-dire les Celtes. Ici, il y en a eu très très peu. Les Celtes sont arrivés par l'Italie du Nord, Milan, Turin, mais très peu se sont installés dans les Alpes dauphinoises, tout simplement parce qu'elles étaient déjà occupées. De même, les Romains sont bien venus. Il y a eu des constructions romaines importantes à Briançon, à Roche-de-Rame et puis plus bas. Mais assez peu se sont installés. Ils passaient pour des raisons commerciales ou pour des raisons militaires. Les armées de César sont passées plusieurs fois par Montgenèvre et Briançon pour la conquête de la Gaule. Mais une installation de peuple romain, ça a été très limite. Néanmoins, la longue paix romaine, jusqu'au 5e siècle de notre ère, la longue paix romaine a facilité les contacts commerciaux et donc humains. De même, la précoce administration chrétienne dès le 5e, 6e siècle, l'évêché puis l'archevêché d'Embrun, les abbayes qui vont se mettre en place à la fin du premier millénaire, je pense à Novalaise, cette administration chrétienne peut créer un certain mélange de personnels qui sont venus d'autres régions de l'ancien Empire romain converti au christianisme. Alors, les grandes invasions à partir du 6e, 7e siècle sont réelles, mais assez peu nombreuses en Briançonnais. Certes, il y a eu le passage des Sarrasins, il y a eu le passage des Hongrois, il y a eu le passage des Lombards, qui sont un peuple germanique, mais on ne peut pas dire qu'il y ait eu une implantation humaine considérable. Il y a eu plus passages, invasions, souvent graves et prédatrices, mais avec assez peu d'installations de peuple parce que les Alpes étaient déjà quadrillées, étaient déjà exploitées, étaient déjà peuplées. Le réseau de villages, surtout en altitude, et même les petites villes le long de l'axe de la Durance, étaient déjà en place. Alors, au Moyen Âge, bon, ben, il y a par la suite également des passages militaires conséquents, ce qu'on appelle les routiers du Moyen Âge, c'est-à-dire des troupes débandées, des mercenaires qui justement étaient d'origine très variée, qui ont ravagé toute la région, surtout les vallées, beaucoup moins les villages d'altitude. Au XVIe siècle, des Espagnols au XVIIIe siècle, par ici et dans le Queyras. Donc, il faut bien imaginer que toutes les armées ou toutes les troupes qui passent, qui restent quelquefois quelques semaines ou quelques mois, certains restent et il y a inévitablement mélange. Ensuite, à partir du XVIIe, Briançon devient une place militaire très importante, avec donc de la main-d'œuvre pour construire les forts, les remparts, etc., les ponts, et des allées-venues de soldats d'origine souvent très variée. Il faut bien penser que jusqu'à la Révolution française, les soldats sont des mercenaires, c'est-à-dire qu'ils sont payés par un chef d'État, un roi en général, pour faire une période plus ou moins longue dans l'armée. Et ils proviennent de toutes les régions de France et même de régions européennes beaucoup plus lointaines. À partir du moment où le souverain paye, ben, on s'engage. Et quand on stationne, ben, pensez bien qu'il y a des contacts avec la population. Ensuite, 19e et surtout 20e siècle, le climatisme puis le tourisme font qu'il faut faire venir une main-d'œuvre importante, surtout italienne au début et beaucoup plus variée par la suite, pour les bâtiments, pour les constructions, comme main-d'œuvre donc, mais aussi comme employés dans les hôtels, dans les maisons de cure, dans les maisons de soins, dans les sanatorias au XXe siècle. C'est une main-d'œuvre d'origine variée, provençale quelquefois, mais pas toujours, en grande partie italienne, piémontaise. Il y a des liens très anciens du temps des Escartons, et puis assez poursuivis, entre le Briançonnais et le Piémont. Le tourisme du XXe siècle, ben, il y a inévitablement des touristes qui, enchantés par leur séjour et par la qualité de l'air, vont rester, s'ils en ont les moyens, ou décider de venir pour leur retraite, quelquefois suivis par leurs enfants ou petits-enfants. On parlait de main-d'œuvre. Lorsqu'il y a eu la construction du chemin de fer, qui arrive en 1884 à Briançon, imaginez la main-d'œuvre nécessaire dans la vallée de la Durance pour les ponts, les remblais, les viaducs, les tunnels. Même chose pour mettre de façon plus moderne le revêtement des routes, ça c'est au XXe siècle, donc la main-d'œuvre pour les chantiers. Et également, tant qu'il y a eu l'usine de la Chape jusqu'à la crise du début des années 1930, cette usine de la Chape avait fait venir beaucoup de jeunes femmes italiennes, surtout dans les années 20, qui étaient payées moins cher que la main-d'œuvre locale. Certaines sont restées et ont fait souche. Donc tout cela participe à un mécanisme de mélange. Briançon est sous-préfecture. Le lycée ouvre en 1910. Il faut imaginer la quantité de fonctionnaires qui arrivent de toute la France, parce que ce sont des nominations qui ne sont pas toujours des choix, et certains restent. L'occupation italienne, 1943, l'occupation allemande, 1944, jusqu'au 6 septembre, il a pu y avoir un tout petit peu de mélange. Donc, voilà, brossé de façon très rapide, sur 10 000 ans, les souches historiques. Parce que les ethnologues considèrent que dans les villages d'altitude qui étaient plus ou moins éloignés des zones de passage qui étaient près des fonds de vallée ou dans les basses pentes, dans ces villages d'altitude, au moins jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ont dû rester une souche haute alpine très vivace. La natalité était restée assez forte jusqu'au XIXe siècle, et donc une souche qui remontait au premier millénaire, les mélanges ayant été beaucoup plus tardifs, après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut dire un mot du phénomène inverse. Les migrations saisonnières anciennes pendant l'hiver, les enseignants, puisque le Briançonnais formait beaucoup d'enseignants, la culture était très développée, les colporteurs de l'Oisan, les commerçants, les artisans, surtout avant 1914, partaient vers la Provence, mais pas seulement, partaient vers Lyon, partaient jusque dans d'autres pays européens. Certains ne revenaient pas, certains faisaient souche dans des régions françaises ou dans des pays européens plus lointains, et quelquefois revenaient avec une épouse qui était d'origine non-alpine. Donc, ça aussi a pu contribuer à un mélange de populations, certes moins important que sur le littoral provençal, moins important que dans la vallée du Rhône, moins important que sur les grands axes qui ont vu passer ô combien d'aventures militaires, sinon d'autres phénomènes. Mais néanmoins, ces mélanges, si on y réfléchit, sont humainement intéressants. Et pour des ethnologues et pour des historiens, c'est fascinant. Ça peut être une piste de recherche ou d'étude. Par exemple, d'après les noms des familles. Les noms des familles, il suffit de regarder les monuments aux morts des villages, pas de Briançon. Briançon accueillait déjà par le 15-9 des populations venues de plus ou moins éloignées, de territoires plus ou moins éloignés. Mais il suffit de voir les noms des monuments aux morts dans les villages pour voir que les mêmes noms se retrouvent souvent et ce sont des noms souches, c'est-à-dire des noms qui existent depuis le Moyen-Âge. Puisque, rappelons, pour les noms de personnes, jusqu'au Moyen-Âge, ce sont les prénoms. Mais les noms ne se mettent en place et ne se différencient qu'à partir de la fin du Moyen-Âge. Mais néanmoins, c'est très très lisible sur les monuments aux morts, puisque jusqu'à la Première Guerre mondiale, les migrations avaient été présentes, certes, ne serait-ce que par l'école porteur ou la transhumance, mais les migrations étaient tout de même plus limitées que par la suite. Voilà quelques réflexions historiques.
Merci beaucoup.